19h-20h. Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, chers amis auditeurs. Ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de se retrouver chaque soir de 19h à 20h. C'est ici que ça se passe pour analyser, commenter et décrypter l'actualité. Et ce soir, au sommaire de cette émission, c'est bien chargé. Tout d'abord, nous allons recevoir le sénateur Yann Brossa, qui est le porte-parole du mouvement communiste, mais également aussi viendra nous parler de son actualité, mais également aussi réagir à l'actualité de ce jour. Il sera avec nous dans une poignée de minutes. Il est à peine en retard de quelques minutes, mais il sera là. Hein ? Voilà, il nous a annoncé qu'il sera là. Il sera bien là, en plateau et en studio. Les débatteurs influenceurs sont aussi là, présents, dont deux qui sont parmi nous, dans le studio. On parlera donc des sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. On parlera de cet accord, vous savez, l'immigration, cet accord, l'Assemblée nationale qui s'est opposée à la dénonciation d'un accord de 1968 avec l'Algérie. Nous reviendrons sur cet accord franco-algérien de 1968. Que s'est-il passé finalement et pourquoi on en parle ? Nous parlerons aussi, vous savez, de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui se dit évidemment abandonné. Abandonné par qui ? Par la communauté juive qui l'a au contraire, donc effectivement, pendant très très longtemps soutenu. Et il rappelle le devoir de mémoire. On reviendra donc sur ce sujet. Toujours le sujet de politique, nous reviendrons sur cette déclaration du président du Sénat, M. Gérard Larcher, qui a lâché cette « ferme ta gueule » à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui lui répond aussi. Et bien on reviendra sur, évidemment, cet aller-retour entre Larcher et Mélenchon. Mais effectivement, quand on est président du Sénat, était-ce le bon terme, clochette ? C'est vrai. 0153483000, chers amis. Oui, oui, vous aussi, vous êtes prioritaire. 0153483000, c'est vous. Vous nous appelez et vous nous parlez évidemment de tous ces sujets. Vous choisissez un des sujets que je viens évidemment de vous soumettre et vous passez en direct à l'antenne. Voilà, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Ibouba, bonjour, vous êtes journaliste.
Bonjour Adil Farkan, un grand plaisir d'être là ce matin, ce soir je dirais bien.
Ce matin, il y a un décalage. Ah oui, je crois que vous avez le droit de venir
avec les transports, donc vous pouvez.
Il
n'y
a pas un décalage, vous étiez où, à New York ou quoi?
Vous avez
presque,
vu,
hein.
Presque, pas du presque, tout, pas loin de là. Hein. Donc voilà, New York à Paris.
New York à Paris. Gamal Abina, le porte-parole du MDC, bonjour, bonsoir.
Bonsoir, je vois que c'est le soir maintenant.
Oui, c'est ça, comment ça va
Gamal? Très bien, vous?
Super, il y a Nabila Itakash qui va arriver aussi. Okay, tout le monde est un peu légèrement en retard, il paraît que c'est un peu le merdier.
Ah oui,
il n'y
a pas de tram, ouais. J'ai pris le métro.
Ah, c'est ça, il paraît, c'est ce que j'ai cru comprendre. Messieurs, je voudrais qu'on parle, c'est quoi, de ce sujet de l'Assemblée nationale qui s'oppose à la dénonciation d'un accord de 1968, sauf que j'aimerais revenir sur cet accord, parce que ça émane quand même d'une proposition d'un député LR qui lui proposait de revoir, de revisiter cet accord qui date de 1968. Gamal Abina.
Bah, la problématique qui se pose, c'est que si on revient là-dessus... À chaque fois, il revient toujours, c'est une sorte de lubie comme ça, d'un accord spécial qui est consécutif à la fin de la guerre d'Algérie, donc ça a été fait en 68, 6 ans après la fin de la guerre, à une époque où on était en pleine glorieuse, les 30 glorieuses.
Ça a été revu à chaque fois 3 fois.
Oui, parce qu'ils ont toujours cette lubie de dire qu'il y a un traitement spécial pour les Algériens. Alors, il y a des positifs et des négatifs, par exemple. Il y a quelques avantages, effectivement, mais globalement, l'idée de revenir sur les accords, c'est de revenir sur beaucoup d'accords. C'est-à-dire que si on ouvre la boîte de Pandore, on peut aussi revenir sur les accords d'Évian, les accords de non-poursuite des criminels de guerre, les accords de non-réparation du Sahara occidental, du Sahara algérien qui a été contaminé par les bombes atomiques françaises. On peut revenir sur beaucoup de choses.
Oui.
Dans les faits, j'ai envie de dire simplement, c'est que la droite a fait une sorte de lubie d'obsession, que l'extrême droite d'ailleurs l'est très souvent.
Est-ce que c'était une certaine manière aussi de diviser la droite, la majorité, pardon?
Non, pas du tout. Non, la majorité n'a pas de problème avec ça. Je veux dire, ce qui est j'allais dire, par rapport à M. Macron, il fait des fautes politiques, ça arrive assez souvent, malheureusement, mais sur le plan international, en dépit de la question palestinienne où il était un peu léger, sur la question algérienne, il est propre. Il n'y a aucun problème. Les relations sont relativement apaisées. C'est un personnage qui est bien perçu. Et c'est vrai que la droite, quand elle fait ça, essaie de lui poser problème, mais elle ne peut pas l'emporter, puisque la gauche est d'accord avec le pouvoir politique, donc il n'y a aucun problème. Ils sont en minorité.
Je vais accueillir celui qui, évidemment, c'est les galères. Hein, ça galère pas mal. Hein. Nabila Itakash, qui est le responsable de Renaissance sur le département du 93. Comment ça va, Nabila Itakash?
Bonjour Adil, très bien, et vous-même?
Ça va, vous avez couru, j'ai l'impression, là.
J'ai couru.
Vous arrivez en âge, hein. Bon, ça tout va bien.
Tout va bien.
Tiens, merci. Gardez le micro. Je veux qu'on parle, vous savez quoi, de cette...
La proposition de loi,
voilà, la proposition
qui a été rejetée par l'Assemblée nationale.
Absolument.
Oui. Alors, j'imagine que vous êtes revenu sur ces accords, vous avez dit à quoi ils correspondaient.
On commence à peine.
Alors, en 62, donc l'Algérie prend son indépendance et des accords d'Évian sont négociés et des accords spécifiques sur l'immigration sont négociés en 1968. À l'origine, il faut rappeler que ce sont des accords qui devaient permettre la libre circulation des pieds noirs qui, on pensait qu'ils allaient rester en Algérie. Finalement, en 62, tout le monde décide, les pieds noirs rentrent en métropole, donc en France.
Pas tous.
L'Algérie est indépendante, pas tous.
Il y a 20%
tous,
qui restent, mais il y a 200 000 qui restent.
À l'origine, les accords avaient été négociés comme ça. Il y a eu beaucoup d'accords, des accords d'Évian, il y a eu l'accord sur le Sahara aussi à l'époque, sur l'exploitation du pétrole. Donc un certain nombre de choses qui avaient été discutées au moment de l'indépendance et des accords d'Évian. Donc aujourd'hui, la droite, toujours de manière assez opportuniste, remet le sujet sur le tapis. Ça a été rejeté par la majorité, ça il faut le dire. Le président de la République est extrêmement pragmatique sur la relation avec l'Algérie.
Sorti, oui, en disant qu'il était très étonné que l'Assemblée nationale s'empare de ce sujet.
Tout à fait.
Qui est un sujet international.
Qui est un sujet, oui, voilà. Donc, donc c'est toujours, encore une fois, c'est la droite, toujours de manière opportuniste, vient.
Quand je dis opportuniste, c'est quoi derrière?
Derrière, il y a la loi sur il y a quand même le projet de loi sur l'immigration et vous avez des gens qui disent. Après, c'est entendable, c'est entendable aussi. C'est-à-dire que vous avez des lois qui sont votées en France et vous avez des traités. Et dans l'ordre juridique français, les traités sont supérieurs aux lois. Ce qui fait que les Algériens bénéficient en effet d'un traitement.
Surtout les traités internationaux qui engagent de pays. Il faut rappeler une chose, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, c'est important, merci de préciser. Parce qu'il fait bien le travail pour le coup. Il faut rappeler une chose, c'est que.
Non, mais
c'est.
Merci.
Là, c'est très carré.
D'habitude, c'est le.
J'aime bien quand il y a de la précision et c'est appréciable. Simplement de dire que ce qui est dommage, en l'occurrence, c'est là où on voit que la droite s'extrême droitise, c'est que c'est quand même De Gaulle qui fait ces accords. C'est un homme de droite. C'est la droite de l'époque qui avait une autre idée de la France, qui fait un traité international, et c'est bien de rappeler que c'est au-dessus des lois nationales. C'est supranational, entre guillemets. Et donc, il faut faire très attention au fait qu'aujourd'hui, la droite s'est tellement désincarnée qu'elle va sur les terrains de l'extrême droite qui réclame depuis très longtemps la fin de ces accords.
Et Bouba?
Oui, je crois que ce problème, il faudra le voir sous différents angles, en fait. Donc, surtout, moi, je dirais bien sous l'angle de l'immigration, notamment, donc, puisque la droite qui est en train de mettre le pied dans le plat. Et effectivement, cela va sans dire et ça se voit très nettement. Politiquement, donc.
Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Elle veut draguer
les électeurs bien sûr, de l'extrême droite? Mais bien sûr.
Oui, c'est ça aussi, c'est vrai.
Il n'y a pas une autre explication, puisque donc, d'année en année, chaque année, donc, ils grattent là-dessus. Donc voilà, c'est ridicule. En fin de compte, on va y arriver de façon à un certain moment donné où tout sera amputé. Même le petit droit que les Algériens avaient, donc, à mon avis, je crois, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la fin de la guerre d'Algérie, je crois que voilà, on sera là sur le tapis. Ça, c'est clair, il faut s'attendre à cela. Et tout cela, donc, ça, c'est pas énoncé ex nihilo. C'est exactement, donc, dû aujourd'hui l'actualité politique qui prévaut, je dirais bien, l'actualité sociale. Parce que aujourd'hui.
C'est comme donc, le disait Gamal Abidine, effectivement, c'est cette loi sur l'immigration qui s'annonce.
C'est l'immigration.
C'est surtout ça, en réalité.
Mais en plus, il faut respecter.
C'est là, la vérité. Comme vous dites, vous, par opportunisme, c'est ça, l'opportunisme?
Non, mais l'opportunisme et surtout le manque de compréhension de ce que sont nos institutions. Encore une fois, le président de la République d'ailleurs l'a rappelé, ce n'est pas le Parlement qui fait la politique étrangère. Mmh. C'est quand même un domaine qui est réservé au président de la République. Oui. C'est de la négociation avec le pouvoir algérien. Bah donc oui. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est de gouvernement à gouvernement.
Je crois que ça l'a agacé Emmanuel Macron.
Hein. Oui, je peux comprendre.
On l'a vu
dans
sa déclaration.
Oui, c'est normal, il y a un minimum de sérieux à avoir. D'abord, on ne va pas sur les plates-bandes du président. C'est vrai qu'on a un petit peu noyé en 5e République le rôle du président. Lui, sa question principale, son rôle principal, c'est la France à l'international. C'est ça qu'il fait. Son premier ministre gère le national. Quand il y a des gros problèmes, effectivement, au niveau national, il peut intervenir, mais il y a une exclusivité de cette fameuse hyper-présidentialité qui est voulue par De Gaulle. On ne peut pas toucher à des accords internationaux, ça ne se fait pas comme ça. Ça peut créer des tensions extraordinaires.
Ça a été revu, trois fois. À trois reprises, ça a été revu.
Ils ont fait des petites réformettes, voilà. Mais ça, c'est juste de l'habillage.
Oui, c'est de l'habillage.
Et c'était un accord binational.
Oui.
C'est-à-dire que les deux États étaient d'accord. Ça ne s'est pas fait d'un côté, c'est pas unilatéral.
Oui, mais c'est bien de le rappeler, ça a été revu. C'est pour ça que ils ont fait cette sortie, effectivement, les gens, les personnalités de LR, notamment cette proposition du député LR qui a fait cette sortie. Mais rappelons-le, c'était aussi l'intention aussi pour diviser la majorité.
Un petit peu de culture, on appelle ça l'accord synalingmatique en droit.
Exactement.
Donc c'est l'accord bilatéral qui permet de pouvoir.
C'est le terme juste.
Joindre les deux bouts et se mettre d'accord et de façon, en général, renégocier. C'est possible, mais pas obligatoire.
Exactement. Ça vous fait sourire, Nabil Takache. Pourquoi?
J'aime bien les précisions juridiques.
Ah, c'est du Gamal Obina. C'est du Gamal. Exactement. 01 53 48 3000, vous savez, vous pouvez nous appeler. Jingle, c'est parti. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On vous donne la parole tout de suite partout en France et dans le monde, puisque effectivement, j'ai remarqué que vous étiez aussi à l'extérieur de la France, vous nous appeliez régulièrement. 01 53 48 3000, je vous attends. Vous venez, vous exprimez votre opinion concernant donc les accords de 68, l'immigration et l'Algérie, mais surtout la droite qui, elle, a fait une tentative évidemment de diviser la majorité. Ça ne va pas fonctionner puisque l'Assemblée nationale a retoqué évidemment cette proposition. Nous vous attendons 01 53 48 3000 pour venir nous livrer votre point de vue. En attendant, Solal vous attend au standard pour venir en parler. D'autres sujets, c'est Jean-Luc Mélenchon aussi qui se dit accusé de nourrir l'antisémitisme, notamment par ses déclarations depuis le 7 octobre. Jean-Luc Mélenchon se défend d'avoir manqué son devoir envers la communauté juive, qu'il l'a au contraire abandonné. Tiens, parlons-en, parce que c'est aussi un sujet qui fait beaucoup, 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 beaucoup parler. Mélenchon ne parle que de ça en ce moment, depuis évidemment un peu plus de 2 mois maintenant. Gamal Abina.
Bah, j'ai envie de dire simplement, d'abord, il y a une chose que les gens oublient, c'est que Mélenchon n'est pas catholique. Il l'a dit par lui-même, hein, c'est pas moi qui le dis, il est né à Tanger. Il est né à Tanger comme la personne avec laquelle c'est mal passé, Rotel Krief, qui est aussi marocaine. Donc c'est deux étrangers, entre guillemets, hein, parce qu'ils sont français, qui se sont plus ou moins affrontés, on dira, via X. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que M. Mélenchon fait une erreur, à mon sens, quand il dit que la communauté juive l'a abandonné. D'abord parce qu'il en est. C'est une première chose, donc il ne peut pas être antisémite. Et au-delà de ça, parce que les questions politiques internationales qui sont liées au sionisme ne sont pas des questions juives. Donc quand il parle de la communauté juive, il fait une grosse erreur. Je tiens à rappeler que quand il y a une manifestation sur la question palestinienne, la communauté juive, qui quand même représente 600 000 personnes en France et qui devrait se mobiliser si elle était attachée à ce point à Israël, ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la question israélienne aujourd'hui, c'est une question d'extrême droite. Et deuxième raison, parce qu'un juif peut être parfaitement français et bien vivre en France, et c'est normal, ou qu'il soit l'erreur.
Alors pourquoi il dit je me sens abandonné par
la communauté juive? Mais justement, il fait une erreur, à mon sens. C'est une grosse erreur. Il
ne
devrait pas dire ça.
Dites-moi.
Non, mais il ne devrait pas dire ça. Il n'a pas à dire ça parce que c'est pas la communauté juive. Il n'y a pas de communauté en vérité. Il n'y a pas de communauté juive organisée qui fait la loi.
Il y a
des lobbies. C'est pas des communautés. Des lobbies, c'est un groupe de pression.
J'ai dit communauté organisée.
J'ai pas dit. Il y a des communautés pour tout le monde, mais on n'est pas organisé en règle générale. Donc cette communauté organisée qu'on rêve de voir exister, elle n'existe pas. Il y a autant de juifs et d'individus qu'il y a de musulmans. En revanche, lui, il devrait s'adresser au CRIF à la limite. Il pourrait dire mais abandonner, ce serait logique. Mais il se trompe de cible. Il ne doit pas parler de la communauté juive parce qu'elle n'est pas anti-Mélenchon ou pro-Mélenchon. Elle se positionne de façon singulière. Donc je pense qu'il fait une grosse erreur en mélangeant, et c'est là où il fait une erreur, du sioniste.
Nabil était à cache. Alors il fait une erreur ou pas?
Moi je crois qu'il fait déjà une erreur. Il s'adresse. Le problème de l'extrême gauche et de l'extrême droite, c'est toujours de s'adresser à des communautés. Jusqu'à preuve du contraire, on est en France, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, on s'adresse à des communautés. Je trouve ça regrettable de s'adresser à des communautés comme ça. Enfin, je pense que sur ces sujets-là, que ce soit sur ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient ou bien sur la montée de l'antisémitisme, on doit parler de communauté nationale, point, et pas s'adresser aux Arabes ou aux Juifs. C'est totalement indécent de sa part.
On continue d'en parler. Juste après la pause, je continue de vous recevoir au 01 53 48 3000, 19h14 précisément. Chers amis auditeurs, vous nous appelez, comme d'habitude, comme chaque soir, aussi nombreux. Nous vous attendons sur évidemment cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui dit se sentir abandonné par la communauté juive. Gamal Abina, il dit qu'il fait une erreur. On va se retrouver avec Yann Brossa. Justement, c'est notre invité, avec quelques minutes de retard, et je vous prie de nous en excuser. Ben voilà, c'est comme ça arrive, hein, vous savez, c'est le sens du direct. A tout de suite, juste après la pause.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h26, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, les informés, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre avec un peu de retard. Et évidemment, sans l'excuse d'entrer, l'interview, c'est parti.
Les informés. L'interview.
L'interview qui habituellement démarre à 19h, eh bien nous allons recevoir un sénateur de Paris, co-président du groupe communiste au Conseil de Paris, mais également aussi le porte-parole du PCF. Oh, je le présente même plus d'ailleurs, c'est Yann Brossat, bonjour.
Bonjour.
Une vieille connaissance de Beurre FM.
Oui, ça fait 15 ans que je viens.
C'est vrai, hein, ouais, vous êtes un fidèle.
Ça fait 15 ans, absolument.
Il y a des fidèles comme ça qui tiennent la route. Hein,
mais d'ailleurs, je regrettais un peu, parce que ça fait un bail que j'étais pas venu, donc je suis heureux de revenir. Mais
vous avez boudé, c'est quoi?
Je ne sais pas, moi je boudais pas.
J'adore. Yann Brossat, justement, monsieur le sénateur. On va parler, vous savez quoi, justement d'un sujet qui est complètement, on est dans l'actualité, il a été traité par les débatteurs là il y a quelques minutes à peine, c'est le sujet de la loi l'immigration. Vous savez, alors on dirait qu'on est en train de préparer, vous savez, que cette loi dans les esprits, etc. L'Assemblée nationale, c'est un député, lui, pour le coup LR, qui a soumis une proposition donc pour retoquer et pour dénoncer l'accord de 1968, vous savez, ce fameux traité qui confère un statut particulier aux Algériens en France en matière de circulation de séjour et d'emploi. Alors, le député LR, lui, voulait mettre fin à tout ça. Sauf que voilà, l'Assemblée nationale l'a rappelé un certain nombre de choses. Votre réaction, Yann Brossat. Alors, qu'est-ce que fallait-il ? Est-ce que c'était le moment d'en parler ?
Ça montre qu'il y a encore des gens qui ont un cerveau à l'Assemblée nationale, puisque cette proposition de loi des Républicains n'a pas pu passer. Pourquoi est-ce qu'on irait emmerder des Algériens qui souhaitent s'installer en France ? En l'occurrence, ces accords permettent à des Algériens qui viennent en France de bénéficier plus facilement que les autres d'un titre de séjour de 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on remettrait en cause ça, alors même que c'est un héritage qui date de 1968, je crois ?
Exact, oui, 68.
Au fond, moi, j'ai,
traité de 68.
Au fond, j'ai le sentiment que du côté des
Républicains... Il a été amendé en 3 reprises, hein, monsieur le sénateur. Hein.
Absolument.
Mais, 85, 94, 2001.
Mais surtout, qu'est-ce que c'est que cette obsession pour l'immigration qui vise en permanence à remettre ce sujet sur la table tout le temps. Mais ça m'agace, et puis surtout, ça nous empêche de parler des sujets qui intéressent vraiment les Français, la grande majorité des gens en ce moment, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, c'est quoi leur sujet ? C'est est-ce qu'on sera capable de boucler la fin du mois ? Est-ce qu'on sera capable d'acheter des cadeaux au moment de Noël pour nos enfants ? Or, en permanence, c'est immigration, immigration, immigration. Et vous savez, moi je suis sénateur, on a eu récemment la discussion sur le projet de loi immigration, il faut voir ce qu'on a entendu sur les bancs du Sénat. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les Républicains, dans Républicain, il y a quand même le mot républicain, donc vous vous dites que vous avez affaire à des gens qui appartiennent à la droite républicaine, vous voyez, des gens qui sont des héritiers de Jacques Chirac. Vous les écoutez aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir Zemmour en face de vous. Vous savez, il y a 30 amendements.
Est-ce qu'on a une explication à cela ? Parce que cette ambiance un peu, vous savez, ce climat anxiogène, vous parlez, parce que là vous êtes en train de nous parler de ce climat anxiogène, c'est ça si j'ai bien compris ?
Oui, bien sûr.
Alors est-ce qu'on a une explication ? Pour quelle raison d'ailleurs ?
Je pense qu'on
ne peut pas tout faire reposer évidemment sur Éric Zemmour ou certains. Yann Brossat, franchement.
Je pense que les Républicains n'ont plus d'espace politique et qu'aujourd'hui, ils sont en train de copier ce que dit le Rassemblement National, ce que dit Éric Zemmour. Ils n'ont pas d'inspiration, donc ils cherchent de ce côté-là. Mais c'est très dangereux parce que, au-delà des outrances, ça fait du mal dans la société parce qu'on instille une espèce de venin, de la haine, de la division où on se regarde en chien de faïence. Moi, je pense que c'est très dangereux et il faut qu'il y ait un sursaut. Et puis surtout, qu'on puisse parler des vrais problèmes, des salaires, des factures qui sont
trop
chères.
Alors pourquoi on ne les aborde pas, les vrais problèmes ?
Ben parce qu'on est saturé aujourd'hui par des débats stupides sur des questions qu'ils ne méritent pas. Quand vous voyez qu'on a fait toute la rentrée scolaire sur la question de l'abaya et de l'uniforme à l'école, c'est quand même une dinguerie. Moi, je le vois dans mon arrondissement, dans le 18e, vous avez des profs non remplacés pendant des jours et des jours. Et de quoi on parle ? Au moment où on parle de l'école, on parle de tout sauf de ça.
Et encore, c'est Paris, donc ça va. Ils sont
et encore, c'est
jours.
Pas. Vous avez raison.
C'est vrai, c'est vrai.
Absolument. Mais c'est quand même un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est pollué par des questions qui ne méritent pas d'être au cœur du débat.
Comment vous existez, vous, justement, au sein de l'hémicycle, vous, mais votre parti, les communistes, parce que, évidemment, Fabien Roussel, on l'entend, mais est-ce que vous faites le poids aujourd'hui ? À la fois au Sénat,
J'aimerais qu'on en ait davantage de poids, mais enfin, en tout cas, j'essaye de faire ce que je peux. Moi, en tout cas, je suis sénateur de Paris, je me bats sur des sujets. En ce moment, je me bats, par exemple, sur la question de l'hébergement d'urgence, faire en sorte qu'on ait plus d'enfants qui dorment dehors. Vous avez aujourd'hui... À l'échelle de la France, 2800 enfants qui dorment à la rue, c'est quand même un vrai sujet. Et puis bien sûr d'autres questions, hein, la question de, une fois de plus, la question des salaires. On devrait pouvoir, par exemple, indexer les salaires sur les prix, faire en sorte que quand les prix augmentent, en ce moment les prix augmentent, les salaires augmentent d'autant. Ben, ça existe en Belgique. Qu'est-ce qui fait que c'est possible de le faire en Belgique et qu'on n'est pas foutu de le faire en France? Ben, ça, c'est une proposition concrète qui permettrait aux gens de vivre un peu mieux et de reprendre un peu d'air.
On va en parler justement dans une poignée de minutes, si vous voulez bien. Autre sujet d'actualité, c'est l'armée israélienne qui encercle. Donc, je parle de ça, évidemment, c'est un sujet d'actualité, c'est hier. Hein. La grande ville de Khan Younes, donc située dans le sud de la bande de Gaza, où se déroulent donc ces violents combats. Alors, le secrétaire du général de l'ONU, lui, il a fait une espèce de mise en garde envers un proche, justement sur l'effondrement total de l'ordre public. Vous dites quoi aujourd'hui? Parce que l'enclave, elle est complètement assiégée. Est-ce qu'il y a une issue de sortie à tout cela? On a l'impression que ça y est, c'est reparti en guerre et que les Gazaouis vont encore subir une espèce de foudre qui va s'étaler encore sur plusieurs jours maintenant.
La seule issue, on la connaît, c'est un cessez-le-feu. Pas une trêve humanitaire qui dure quelques heures. C'est un cessez-le-feu durable et c'est la levée du siège de Gaza, avec bien sûr la libération de tous les otages. C'est ça l'issue. Mais cette issue-là, elle ne pourra s'appliquer que si on fait pression sur le gouvernement israélien. Si on laisse les Palestiniens seuls face au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, il ne se passera rien. Il bénéficie depuis si longtemps d'une impunité totale qui lui permet de martyriser les Palestiniens comme il le fait. Que s'il n'y a pas cette pression-là, il se passera pas rien, malheureusement. Les choses continueront comme elles sont actuellement. Donc moi, je pense qu'il faut l'arrêter, que le gouvernement de Benjamin Netanyahou est un gouvernement de fous furieux, de dangereux, qu'il faut les arrêter et donc il faut une pression internationale.
Qu'est-ce que vous dites à l'exécutif? Qu'est-ce que vous dites au chef de l'État? Qu'est-ce que vous dites à justement Emmanuel Macron?
Le problème, c'est que Macron, sur ce sujet, a dit beaucoup de choses contradictoires. Ses derniers propos sont plutôt des propos avec lesquels je suis d'accord.
Tant mieux, on a un représentant de Renaissance qui est là.
Il
va pouvoir vous interpeller peut-être.
Non, mais en l'occurrence, sur ses derniers propos, je suis d'accord. Quand en revanche on était sur le soutien inconditionnel au gouvernement israélien, j'étais pas d'accord. Mais peut-être que l'évolution de la situation a fait que Emmanuel Macron a ouvert les yeux sur la situation à Gaza.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui tendre comme message?
Je pense qu'il faut aujourd'hui.
La situation, vous la considérez grave.
Je pense que oui, la situation, elle est dramatique. On a reçu d'ailleurs au Sénat, avec le groupe communiste, l'ambassadrice de Palestine en France. Et la situation dont elle nous a fait état est absolument dramatique. En plus, elle a de la famille à Gaza. Moi, je pense qu'on a besoin d'une coalition internationale pour faire entendre raison à Benjamin Netanyahou. Je pense que sans ça, on s'en sortira pas.
Est-ce que vous faites bouger les lignes au Sénat, justement, vous, en tant que sénateur? C'est quoi votre marge de manœuvre sur le conflit israélo-palestinien?
Au Sénat, la majorité est à droite et ça fait un bail. Le Sénat a été à gauche, je crois,
est-ce que
trois
vous arrivez...
ans dans son histoire.
Oui,
donc,
oui, c'est
donc
vrai.
Ça n'est pas
droite.
Simple. Moi, ce que je dis, c'est que si on veut reconstruire un processus de paix, on a besoin de travailler à deux États, un État israélien et un État palestinien qui puissent vivre côte à côte, ce qui suppose le démantèlement des colonies israéliennes. Parce que on ne pourra pas construire un État palestinien souverain avec les colonies qui se sont développées ces dernières années. Donc évidemment, ça suppose du courage, parce que ça n'est pas du tout la position du gouvernement israélien actuel. Et le rapport de force politique, par ailleurs, en Israël, ne va pas dans ce sens-là. Donc ça ne peut passer que de l'extérieur, et que par la communauté internationale.
Une situation que, évidemment, autre situation, évidemment, à une différente échelle, que vous qualifiez d'insupportable et indigne. Parce que vous parlez de 7e puissance mondiale, on parle de la France. Près de 3000 enfants, un chiffre record, vivent en France dans la rue. Alors vous avez décidé de mettre les pieds dans le plat, vous, monsieur le sénateur communiste Yann Brossat, qui appelait à dépasser les solutions de débrouille. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que vous voulez ouvrir quoi? 10 000 places d'hébergement manquantes? Mais là, c'est un peu utopique, cette histoire-là.
Non, parce qu'il y a des bâtiments vides. Vous avez, mais chacun peut le constater quand il se balade dans la rue, vous avez des tas de bâtiments vides, y compris des bâtiments publics. Si aujourd'hui, on mobilisait les bâtiments qui sont vacants et qu'on en faisait des centres d'hébergement, on n'aurait plus personne qui dormirait à la rue. D'ailleurs, je note qu'à Paris, ça fait des semaines qu'on monte au créneau sur ce sujet, parce que vous l'avez dit, 3000 enfants qui dorment à la rue à l'échelle nationale, 400 enfants qui dorment à la rue Paris, dans mon arrondissement.
Est-ce qu'on peut parler d'explosion
60.
Du nombre d'enfants livrés à
oui,
la rue?
Oui, j'en ai encore discuté avec les responsables d'UNICEF, c'est plus 42% en un an. Plus 42% en un an. Et on parle de mômes qui ont parfois quelques mois, quelques années. Donc, il faudrait pouvoir réquisitionner les bâtiments vacants. Il faudrait pouvoir faire en sorte que là où on a des bâtiments vacants, on les mobilise. Et d'ailleurs, depuis que on a commencé à se mobiliser sur le sujet, la région Île-de-France a accepté de mobiliser 5 lycées. Ces lycées qui sont vides depuis le mois de septembre, on va pouvoir les utiliser pour créer des places d'hébergement.
Vos collègues au Sénat, qu'est-ce qu'ils en pensent quand on a déposé cet amendement?
Ben, on a obtenu au Sénat un amendement au projet de loi de finances qui crée 6 000 places d'hébergement supplémentaires. C'est pas 10 000, mais enfin, c'est mieux que zéro. Donc, 6 000 places d'hébergement en plus, ça a été voté dans la loi de finances grâce au Sénat.
D'accord, qui ont été votés vendredi dernier.
Tout à fait.
Ouais. Je sais que c'est un chantier qui vous tient à cœur. Hein.
Oui, parce que on parle d'enfants une fois de plus. Voir des enfants dormir dehors par ce temps-là, c'est quand même une folie. On parle d'un pays qui effectivement est la France. On est la 7e puissance économique du monde. Mais en plus, on parle d'enfants qui vont à l'école, qui sont scolarisés. Moi, je le vois. Leurs parents misent beaucoup sur l'école parce que c'est des familles qui viennent d'arriver en France et donc elles misent sur l'école comme un outil d'ascension sociale. Or, on peut pas avoir une scolarité normale quand on a passé la nuit dans la rue. Enfin, moi, j'ai encore le souvenir de cette famille avec laquelle j'ai discuté. Ils dorment dans une tente tous les soirs, passage Ramet dans le 18e. Et ils font l'effort d'amener les gamins à l'école, à la Goutte d'Or, tous les jours, à rue Richaume, pour ceux qui connaissent la Goutte d'Or. C'est du délire. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, moi, je suis heureux qu'enfin, on ait des lycées qui vont ouvrir, des lycées vides, et qui vont pouvoir accueillir ces familles.
Je vous retiens encore quelques minutes hein, avant de marquer la pause, parce que ça, on arrive au terme de cette interview spéciale. Yann Brossa, monsieur le sénateur, merci d'être avec nous en tout cas. On va parler juste d'un sujet, bien sûr. Allez-y, Gamal Abinah.
Oui, vous dites que la France est la 7e puissance économique mondiale, mais je ne vois pas l'intérêt de le dire. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que c'est une grande puissance que le pays traite bien sa population. C'est pas à ce niveau-là que je vois la France. Les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale et c'est un pays où il y a 30 millions de pauvres extrêmes qui vivent dans la rue, travailleurs pauvres et autres. Moi, je pense qu'il faut penser la France en termes de pays qui avait une politique sociale solide, qui s'est émaillé avec le temps, ça c'est plus important de le souligner.
Nabil Etakash.
Oui, enfin, je vous parlais au passé, comme s'il n'y avait pas de politique sociale en France.
C'est quand même...
Okay, oui, mais enfin, je pense que sur l'hébergement d'urgence, vous pouvez en convenir, le gouvernement a fait quand même des efforts depuis 2017, il y a eu 2 milliards depuis 2017 sur les crédits pour les logements d'urgence qui ont été mis qui ont été ajoutés pour pouvoir traiter cette question. Il faut toujours en faire plus. Je suis d'accord avec vous, c'est anormal qu'on ait encore autant d'enfants dans la rue, mais on peut pas laisser dire que la France, 7e puissance mondiale, ne fait rien pour sur ce sujet-là. Il y a quand même beaucoup de choses qui
Monsieur
sont faites, il y a des places qui ont été débloquées. Julien de Normandie avait fait un travail considérable
là-dessus
et je pense qu'il faut le rappeler, on peut pas laisser nos éditeurs croire qu'on fait
rien. Monsieur le sénateur, vous répondez quoi?
D'abord, je pense vraiment que ça ne doit pas être un sujet de polémique.
Oui,
et c'est même pas d'ailleurs un sujet
non,
de droite,
sujet
de gauche,
non.
De dire il ne doit pas y avoir d'enfants qui dorment dehors. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de places d'hébergement. Il y a 203 000 places d'hébergement à l'échelle du territoire national. Simplement, dans ce domaine, on n'a pas collectivement une obligation d'effort, on a une obligation de résultat, qui est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants qui dorment à la rue. Et donc, s'il en manque 10 000... On doit être capable d'en rajouter 10.
Dernière question. J'ai pas le temps parce qu'il faut que je rende l'antenne ensuite. Après, évidemment, après, il y a le débat qui continue. Vous avez réagi, ou je voudrais vous faire réagir sur la montée de l'extrême droite en Europe. Parce que vous avez dit une déclaration. Vous, sénateur, monsieur le sénateur, vous estimez que on est en train d'insister un climat, vous dites, j'ouvre les guillemets, un climat national qui pousse vers la droite. Les différentes composantes de la majorité municipale de Paris ne devraient pas attendre le second tour pour s'allier comme c'est le cas d'habitude. C'est déjà le cas, monsieur le sénateur, jamais Yann Brossa. L'extrême droite, c'est le premier courant politique français.
Ouais, mais on peut pas s'habituer à ça.
Oui, mais je vous pose la question.
Je ne me fais pas.
Vous alertez, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais en même temps, j'aime bien, parce que vous alertez, mais on fait quoi?
Moi, je dis qu'à Paris, il faut qu'on soit capable de résister à ça et de faire en sorte qu'aux prochaines élections municipales, on n'ait pas l'extrême droite, la droite.
Oui, mais sauf que l'extrême droite domine. En France et en Europe. L'Italie, la Suède, les Pays-Bas.
Mais il faut lutter contre ça, il faut tenir tête.
Vous avez raison.
Moi, j'ai envie de donner espoir aux gens qu'on puisse construire autre chose que des idées rances, des idées pourries, des idées de haine entre les gens.
Ouais. Comment?
La solution, c'est quoi? L'unité?
Qu'est-ce qu'on fait?
C'est
qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi votre proposition, monsieur le sénateur?
D'abord, une proposition, c'est de nettoyer l'espace politique, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de propos racistes et antisémites.
Moi, comment vous nettoyez l'espace politique?
Hyper simple, hyper concrète, je suis favorable à l'inéligibilité de toute personne qui est condamnée pour des propos racistes et antisémites. Éric Zemmour ne devrait même pas pouvoir être candidat à une élection. Quand on a été condamné pour ça, racisme, alors, antisémitisme, ça dégage de l'espace politique. Ça n'existe plus.
Brossard, s'il vous plaît.
À une élection, de sénateur, voir des gens comme
monsieur
ça.
Monsieur le sénateur, dernière question. Justement, la NUPES s'affaiblit, ça y est, hein, elle commence à devenir inexistante. Vous proposez quoi? Il y a un nouveau mouvement, quelque chose de nouveau pour contrer l'extrême droite?
De toute façon, il va bien falloir que la gauche se rassemble. Donc on pense qu'on veut de la NUPES.
Bon. Mais vous dites comme monsieur le sénateur.
Je pense qu'il faudra que la gauche retrouve le chemin du rassemblement parce que sinon on est cramé.
Une nouvelle NUPES.
Une nouvelle union de la gauche qui soit capable de rassembler tout le monde et de donner de l'espoir à des tas de gens qui aujourd'hui
ne voient rien
venir. On restera
sur cette proposition, effectivement, l'union de la gauche. À suivre.
Hein. Mais avec plaisir. Une union de la gauche qui oublie tout ce qui s'est passé là ces dernières années avec Mélenchon. Enfin,
exactement. Merci Anne.
On va y travailler. Merci monsieur à vous et au plaisir de revenir. J'espère que je ne vais pas attendre encore 5 ans avant de revenir ici.
Attendez, vous nous avez tendu la perche. Vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Merci Anne Brossat. Merci monsieur le sénateur. À vous. Bon courage. Effectivement, merci d'être venu ici pour cette interview spéciale inédite. On retiendra évidemment cette information, cette proposition de monsieur le sénateur, l'union de la gauche pour contrer l'extrême droite. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, on marque une pause.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
De retour dans le studio, 19h42, avec Gamal Abina, Nabila Itakache et enfin Ibouba, justement, tout ce beau monde pour commenter l'actualité. Jean-Luc Mélenchon qui répond donc à la communauté juive, qui dit, parce que je ne vous ai pas entendu justement Ibouba, je voudrais vous donner la parole. Qu'est-ce qu'il cherche à redorer le blason? Qu'est-ce qu'il cherche Jean-Luc Mélenchon quand il dit « je me sens abandonné par la communauté juive »
Écoutez,
il cherche quoi?
C'est sans le langage de bois. Vous savez, Mélenchon, c'est effectivement son identité, c'est sa signature, en quelque sorte, donc il est connu pour ça. Mélenchon, est-ce qu'il faut le comprendre, est-ce qu'il faut pas le comprendre? Je crois que, bon, voilà, il dit ce qu'il pense, réellement. Donc, après, maintenant, aujourd'hui, on sait très bien que, bon, il est mal aimé par les politiques aujourd'hui. Bon, cela aussi, ça a une raison singulière, hein. Vous savez très bien, cette entité, donc, de la gauche, ou, je dirais bien, contre, donc, cette extrême droite, ou de la droite, notamment, je sais que ça sent très mauvais en ce moment, donc voilà, on peut comprendre Mélenchon, et moi je peux comprendre quand il fustige cela et qu'il désigne justement donc cette communauté juive, sans doute, peut-être sûrement que ça, c'est bien dit, fugace des pensées.
Peut-être qu'il était trop loin, non?
Pas trop loin. Moi je me dis justement que ça a été fugace des pensées, ça a l'air même meilleur, ouais. C'est-à-dire qu'un homme qui a été atteint...
Ouais, mais est-ce que sa sortie avec Rutel Krieff, justement, c'est pas... Peut-être qu'il s'est dit, oui, j'ai un peu débordé...
Oui, mais
c'est
à mon avis,
amusant parce que Rutel Krieff, par exemple, Abina, se plaint d'avoir été un petit peu bousculé sur Twitter, mais c'est arrivé avec d'autres politiques qui l'ont bousculé, elle n'a rien dit. Mais surtout, Rutel Krieff oublie quand même c'est qu'elle a une posture très offensive, dont on sait très bien qu'elle est orientée. Voilà. Donc il ne faut pas jouer la victime quand on passe son temps à dire les musulmans sont comme ceci, à la Wagbar par là. Elle caractérise les faits, elle essentialise les gens, et après elle s'en prend une volée de voix verte. C'est logique. Maintenant, Mélenchon est détesté parce qu'il a pris une position courageuse, il faut le rappeler. Moi, je ne suis pas
absolument,
du tout LFI.
Absolument.
Il est courageux, il a dit on ne peut pas accepter de massacrer des gens. Et là, je suis désolé, je vous donne un chiffre, vous allez pleurer. 1%, je dis bien 1% de la population de Gaza a été exterminée. 1% en 2 mois. Donc il faut quand même être un peu sérieux. Et
c'est
sur les 1%, la moitié, c'est les enfants de moins de 12 ans. Donc je vais bien être gentil, mais Mélenchon est du bon côté de l'histoire.
Nabil Itakache, j'aime bien. Il y va cash, lui. Hein.
Itakache, il va cash.
Itakache, il y va cash. Pas mal. Ouais. Clochette, allez, j'ai le droit à une clochette.
Non, mais écoutez, c'est, je pense que l'outrance ne sert pas à grand-chose. C'est vrai que le traitement médiatique en France, et notamment sur les chaînes d'info en continu, moi, me désole, en fait, parce qu'on parle plus de ces polémiques que de ce qui se passe, en fait, sur le terrain.
C'est ça.
Le secrétaire général de l'ONU, on l'a dit tout à l'heure, vient d'engager l'article 99 de la charte des Nations Unies pour attirer donc l'attention des pays membres du Conseil de sécurité pour dire que ce qui se passe, on est près d'une catastrophe, mais là on est sur un effondrement total.
Donc
pendant qu'on parle de tout ça, on oublie les populations qui souffrent à Gaza. On ne parle pas de tout ça, on ne parle pas de la solution politique nécessaire à ce conflit, et je trouve ça désolant. Donc moi, je j'ai pas du tout envie de commenter les propos de Mélenchon et de cette polémique.
Alors, Gamal Abina, on va qu'on poursuive parce que je voudrais qu'on parle de ce dernier sujet. Vous savez, cette fameuse phrase lancée par Gérard Larcher, le président du Sénat, oui. Qu'est-ce qu'il laisse comme exemple quand il dit « ferme ta gueule » justement à Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon qui répond aussi au ferme ta gueule lancé par Gérard Larcher. Gabon Abidjan.
Simplement, d'abord, je vais conclure sur ce qui a été dit juste avant, parce qu'il y a un lien direct, évidemment, de dire que, et il faut être très clair, si un antisémite se manifeste, je suis contre cet antisémite, et je l'ai été il y a très longtemps, contre Alain Soral. Les choses sont très claires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cautionner le racisme, quelle que soit la personne qui est ciblée. Mmh. On doit être vent debout vis-à-vis de ceux qui ont des réflexes antisémites ou des actions antisémites. Par contre, quand on va cautionner la barbarie, et je parle de barbarie, de l'État raciste qui est actuellement en commande, je parle donc de ceux qui dirigent l'État israélien, qui sont d'extrême droite, eh bien il faut être ferme. On ne peut pas, composer avec un gouvernement d'extrême droite, les choses sont très claires. Quand on est contre eux, on est du bon côté de l'histoire. Et pour concernant les propos outranciers tenus, alors là, sincèrement, ça a été dit à l'instant par Nabil, mais dans quelle poubelle on est tombé? Il y a eu la télévision poubelle qu'on a connue arriver en 90, et maintenant c'est la politique poubelle. C'est-à-dire qu'au lieu que la droite s'élève, au lieu que les politiques s'élèvent et parlent de grandes considérations sur la structure du pays, sur l'amélioration des conditions générales, sur la grandeur de la France, sur les grands projets, au lieu de parler de ça, ils s'invectivent à base d'insultes de gamins de cité. Bah, je suis désolé. Quand un exemple comme
c'est
ça est donné,
c'est ça l'exemple
à
regarder.
Moi, je ne laisserai pas dire de gamins de cité parce que tout le monde ne parle pas comme
j'exagère,
ça.
J'exagère. Voilà. Donc, c'est une façon caricaturale de dire qu'on les montre du doigt parce qu'ils parlent mal et le politique parle encore plus mal. C'est en cela que je dis gamins de cité. Je fais partie des gens de cité, je le rappelle quand même.
La binette à cache. Alors, concernant toujours évidemment ce sujet.
C'est pareil. Enfin, je trouve que on fait des polémiques. J'ai regardé la vidéo et on voit Gérard Larcher en effet dire répondre tout à la fin de l'interview. Qu'est-ce que vous avez à dire à Mélenchon? Et il le dit de manière un peu triviale. Il n'y a pas de ce qu'on a l'impression qu'il lui a dit ferme ta gueule en direct comme ça et qu'il s'est adressé directement à lui. Oui, c'est regrettable. Moi, je suis en général pour l'exemplarité quoi qu'il arrive. Hein, c'est à tous les niveaux, à l'école, entre les profs et les élèves, partout c'est où vous incarnez quand même la puissance publique ou les représentants
politique.
Je pense qu'on doit être exemplaire et ne pas tomber dans ce genre de propos outranciers, non, mais vulgaire, mais de là en faire toute une histoire, moi je vous dis la vérité, je regarde les chaînes d'infos en continu là, une demi-heure sur le sujet quand même.
Ah, une demi-heure.
Une demi-heure sur ce sujet-là, avec tout le monde qui vient donner son avis. Moi, je trouve ça regrettable. On ne parle pas des choses plus importantes, comme le disait tout à l'heure le sénateur.
Et Bouba.
Oui. Non, mais c'est vrai. Propos outranciers ou pas, je crois qu'il faudra rappeler justement que bon, écoute, on est tous des humains aussi. Hein.
Oui, voilà.
Ça arrive. Et en plus de ça, donc voilà, c'est deux personnes avec deux personnalités différentes et qui seront même retrouvées sur les bancs de l'école, donc qui se connaissent très bien.
Ils sont amis.
Après, maintenant, quand on voit maintenant le pays, regardez, essayez de voir un tout petit peu donc la tête donc de deux messieurs, vous voyez très bien que donc il y a peut-être sûrement cette façon de taquiner l'un ou de taquiner l'autre. À mon avis, je crois qu'il y a rien de
taquiner.
Voilà, bon, il y a rien de.
J'aime bien.
Il y a rien.
Moi, je vais bien vous taquiner en vous disant ferme ta gueule. Est-ce que vous trouvez que c'est taquin ça?
Oui, mais bon, je crois que c'est pas si méchant.
Ah, c'est génial ça.
C'est pas si méchant. La vision spontanée des choses, on peut l'aggraver, les propos sont
tranchés. Excusez-moi, si vous en pensez, vous pensez que c'est taquin de dire ça?
Ça ne fait pas partie de sa personnalité quand même.
Moi, j'ai envie de dire simplement, c'est que quand on s'appelle Larcher, c'est logique qu'on tire des flèches. Hein. Petit mot de balle.
Ça arrive, on est tous des humains.
Il faudrait une clochette, ça c'est vrai.
Ça arrive de lâcher.
Non, mais moi je pense que, non, sincèrement, pour être honnête, l'exemplarité, on en a parlé, c'est intolérable d'être grossier et vulgaire. Il faut quand même un minimum de sérieux. Il y a les caméras, il les voit, il se calme.
Il se calme, effectivement. 19h50, on est pile poil dans les clous avec le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, vous le savez, comme chaque jeudi, c'est avec le patron de l'ERI, c'est le fondateur aussi de l'ERI, c'est monsieur Pascal Boniface. Bonjour Pascal Boniface.
Bonsoir Adil.
Comment ça va?
Bah, très bien, comme à chaque fois que je suis à votre micro.
Absolument, et je vous lance parce que Gaza, le pire est à venir. On vous écoute.
Oui, effectivement, il y a déjà un nombre impressionnant de morts. On parle de 16 000 morts, c'était il y a deux jours. Le nombre a encore dû augmenter aujourd'hui. Mais en fait, un militaire français, un ancien militaire en français, Guillaume Ancel, a dit que ce chiffre était en réalité sous-estimé. Et Guillaume Ancel, c'est pas vraiment l'islamo-gauchiste de service. Il va plutôt dire qu'on est à 20-30 000 morts déjà.
Plus 20-30 000 morts.
Plus les blessés. Effectivement, il y a les morts qu'on a comptabilisés, mais il y a les morts qu'on n'a pas pu comptabiliser parce qu'ils sont enfouis sous les décombres. Et puis 120 000 blessés et la présidente de la Croix-Rouge internationale a dit que en fait il y avait des blessés qui n'étaient pas soignés, donc il y a des gens qui avaient perdu une main, un pied, faute d'être soignés. Et la porte-parole de l'OMS a dit encore il y a deux jours que les risques d'épidémie, faute de soins, faute de médicaments, faute même des fois d'eau potable, allait créer un nombre de morts qui pouvait être plus important que celui des bombardements. Donc c'est une catastrophe humanitaire qui s'annonce dans un relatif indifférence des pays occidentaux qui mettent en garde Israël, mais les mises en garde ne sont pas vraiment suivies de réelles pressions. Et là, c'est terrible parce qu'en fait, on voit que le nombre de morts va s'allonger et que donc la haine va venir encore s'accroître et que tout ceci ne conduira pas à un climat apaisé. Alors, on peut comprendre que Israël veuille éradiquer le Hamas, mais ce n'est pas comme ça qu'il le fera. Et moi, ce que je vois, c'est que après le 7 octobre, on a dit, il ne faut pas de 8 mai. Il n'y a pas de 8 mai par rapport aux attentats. Il faut qu'on ait des attentats, ce que nous avons fait pour la plupart d'entre nous. Mais là, il y a un 8 mai. On nous dit, oui, mais c'est la guerre. Oui, mais c'est normal qu'il y ait des morts parce que c'est la guerre. Non, ce n'est pas normal de bombarder des civils qui ne sont pas des membres du Hamas, qui ne sont pas des responsables. Non, ce n'est pas normal de tuer des centaines d'enfants pour viser un responsable du Hamas. Et donc là, ce qui se passe, bah, c'est pas la guerre, c'est plus que la guerre. Et en fait, quand on fait la comparaison, pour certains, l'on fait en disant « Mais finalement, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a aussi bombardé des civils et c'est comme ça qu'on a gagné la guerre contre Hitler », on oublie une chose, c'est que depuis, on a voté des droits du droit international, on a mis en place un droit humanitaire qui justement interdit de cibler des civils et qui dit que la guerre doit être uniquement entre combattants militaires. Et donc le 8 mai doit être dire aussi de dire aux gens, vous ne pouvez pas dire que oui, c'est dommage, il y a des morts, mais c'est la guerre et c'est comme ça, parce que là c'est quand même d'une part moralement complètement indéfendable et stratégiquement amener des lendemains très difficiles, parce que les images de destruction, les images de mort que l'on voit vont provoquer de la haine, vont provoquer des violences par la suite.
Merci pour cette analyse et ce regard et cet éclairage, mon cher Pascal Boniface, vous le patron fondateur de l'IRIS, l'Institut l'IRIS. À jeudi prochain, sans faute, je vous souhaite une excellente fin de semaine, mon cher Pascal.
Merci Adil et bonsoir à tout le monde.
Merci, bonne bonsoir. Soirée à vous. Bonsoir. Merci messieurs. Je rends l'antenne, hein, effectivement. Absolument. Ça y est, je vais vous libérer. C'est déjà la fin de l'émission, hein. Ça va vite, hein, ça va vite, effectivement. Et Bouba, à bientôt.
À très bientôt.
Adil, mon cher, plaisir partagé. Le représentant de Renaissance sur le département du 93, il s'appelle Nabila Itakesh. À très bientôt.
À très bientôt, Adil, merci.
Plaisir,
de New York la semaine prochaine, on avait dit qu'on faisait une chronique
de New York.
C'est vrai, tiens,
de New York. Je compte sur vous. Hein.
Oui,
mais c'est vrai, j'aimerais bien que vous me donniez un petit peu le climat new-yorkais. Trump, tiens, tu as un truc sur Trump, non ? J'ai envie de savoir ce qui se passe avec Trump,
vous me direz, puis
l'ambiance, etc.
Je vous parlerai de là-bas.
Voilà, absolument. Nabila Itakesh, ça claque quand même depuis New York. Hein.
La grande classe.
Ouais. Gamal Abida, merci, le porte-parole de MDC.
Je serai du 93, si vous êtes
Merci à Solal, à la réalisation. Merci, Solal. Bilal Lenman, Time Sport, de 20h à 21h, 21h, 23h. Ça, c'est Vanessa. Kim, demain matin pour la matinale, et quant à moi, demain, avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien, les amis.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.